Les Cascodeurs Podcast, épisode 56. Interview Ceylon avec Stéphane Epardo et Emmanuel Bernard. Enregistré le 27 mars 2012.
Bienvenue, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 56 des Cascodeurs, enregistré le 27 mars 2012.
Attends, c'est quoi ce bordel là-haut? C'est moi qui fais ça normalement là.
Et non, aujourd'hui donc ce n'est pas Emmanuel Bernard qui va vous faire l'épisode des Cascodeurs, mais c'est moi, donc je suis Julien Ponge. Donc je me présente rapidement, je suis actuellement maître de conférence à l'INSA de Lyon, au département télécom. Je suis chercheur dans un laboratoire qui s'appelle le CITI, où en ce moment je fais pas mal de bidouilles sur des machines virtuelles. Et puis sinon aussi je suis connu pour faire le projet IZPack qui vous permet de créer des installateurs pour la plateforme Java. Et puis sinon je suis aussi rédacteur d'articles techniques pour Oracle dans Java Magazine et Oracle Technology Network. Et donc effectivement aujourd'hui nous allons faire un épisode sur Ceylon, le langage de Red Hat. Et effectivement c'est pas Emmanuel qui va parler, c'est Emmanuel qui va être interviewé avec Stéphane Epardo. Alors justement, Stéphane Epardo, qui es-tu ?
Bonjour, donc moi c'est Stéphane Epardo, je suis employé Red Hat, je travaille sur le compilateur Ceylon et un petit peu l'écosystème qui tourne autour. Voilà, je suis principalement intéressé par tout ce qui est REST et tout ce qui est langage.
D'accord, très bien. Et toi Emmanuel Bernard, qui es-tu ?
Alors, je m'appelle Emmanuel Bernard. Voilà, je suis dans l'équipe. Enfin, je suis chez JBoss de Red Hat depuis pas mal de temps. Originellement dans l'équipe Hibernate, et puis maintenant, je m'occupe d'un peu tout ce qui est donné. Enfin, je touche à un peu tout ce qui est donné au sens, enfin, chez Red Hat dans le middleware. Et puis j'ai aidé aussi au démarrage de Ceylon. Et puis je continue à aider un petit peu de temps en temps. Voilà.
Ok, cool pour t'imiter.
Voilà. Et d'ailleurs, oui, la raison pour laquelle, justement, c'est toi qui fais l'interview, c'est pour être un peu plus neutre. Donc, il y a des gens qui voulaient une interview sur Ceylon. Et puis, je me voyais mal poser les questions à Stéphane. Ça aurait fait bizarre.
Ça aurait fait un petit peu club, ouais. Voilà. Donc, pour être honnête, juste pour faire un full disclaimer, comme diraient nos amis anglo-saxons, donc je n'ai pas d'action chez Red Hat, je n'ai pas d'action dans Ceylon. Mais j'ai quand même juste un tout petit commit, c'est pour le système qui s'appelle Homebrew sous macOS 10 et qui vous permet d'installer des packages. Donc si vous faites vous install Ceylon, vous aurez Ceylon qui sera installé. C'est ma seule contribution à Ceylon. Voilà.
Ouais. Et s'il y a des bisous sur la joue aussi qu'on t'a fait pour faire l'interview.
Ouais, alors il y a les bisous, il y a aussi le chèque, mais ça je crois qu'il fallait pas qu'on en parle.
Non.
Non, ok.
De
bon,
toute façon, il est en bois.
Ah merde. Bon. Ok, donc on va peut-être commencer cette interview. Alors j'ai prévu plusieurs parties. On va commencer par une partie plutôt intro. Et finalement, j'ai commencé par dresser un petit paysage sur les langages sur la JVM, parce que c'est un domaine qui est super actif. Et c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Donc finalement, voilà, Ceylon, et c'est un peu les réactions de la communauté aussi, encore un langage. Alors pourquoi et qu'est-ce qu'il a de particulier ? Finalement, si on regarde sur les langages de la JVM, c'est pas une histoire neuve. Il y a eu, il y a très longtemps, des langages qui s'appelaient, par exemple, BinShell. Je sais pas si vous avez connu.
Ouais,
BinShell. Donc, c'était Java, mais qu'on pouvait scripter. Donc, ça, c'était un peu la préhistoire. Il y avait aussi Rhino de Mozilla, qui était un interpréteur JavaScript.
Qui existe toujours.
Et qui existe toujours, ouais, qui est livré avec les JDK, sauf sur Mac. Mais sinon, tous les JDK, Oracle et IBM, je crois, ont Rhino qui est embarqué pour la partie scripting. Il y a eu aussi Jython, qui était donc le portage de Python, qui avait fait son chemin même dans un serveur d'application d'IBM, très connu et utilisé par les DSI innovantes. Ensuite, il y a eu pas mal de dynamiques qui sont apparues, donc notamment Groovy, qu'on ne présente plus avec Guillaume, qui en est le lead. Alors Groovy, c'est un langage qui est extrêmement pratique pour faire des DSL et faire de la glu ou des applications complètes, donc c'est un projet très très mature.
Et très proche de Java.
Ouais, en termes de
modèle. Une extension de Java finalement, mais en version dynamique. Ce qui fait que ça aide à l'adoption, ça a aidé à l'adoption initiale de Groovy.
Ouais, tout à fait. D'ailleurs, sur Groovy, là, j'ai vu passer récemment, ils sont en train d'étudier la compilation statique pour générer du bytecode justement très proche de ce que ferait Java C. Donc c'est super intéressant. Il y a aussi donc après JRuby, qui est Ruby porté sur la JVM et qui paraît-il est l'implème la plus rapide de Ruby. Ah, donc ça c'est pour les gens qui disent que le C est plus rapide que Java. Il y a aussi Clojure pour les fans de Lisp, qui est sur une niche qui est super sympa. Et puis alors après, on a eu
Mais je
le...
trouve que Clojure, tu vois, tu l'as mis dans la fièvre dynamique, mais je trouve que Clojure, il a aussi le début de cette fièvre
Fonctionnel, tu veux
fonctionnelle,
dire?
voilà, où on dit, voilà, il faut arrêter de partager les données, les états, les machins, faire ça de manière différente avec l'approche fonctionnelle pour pouvoir scaler à plein de corps, etc., etc. Je pense qu'il est sorti un peu de cette mouvance-là, ce langage.
Ouais, tout à fait. Mais il a une communauté alors, qui est de niche, mais qui est vraiment super sympathique, hein. C'est vraiment des gens avec qui on peut discuter. Enfin, moi, j'en connais un qui est sur Lyon, qui est super intéressant. Donc, il y a pas mal de gens sympas là-dedans. Puis alors après, on a eu le sujet à troll favori de la liste Les Cascodeurs, Scala. Alors Scala, c'est un langage qui a été fait par le papa de Java C et des Generics, Martin Oderski. Donc c'est un langage qui fait couler beaucoup d'encre, parce que effectivement on peut se prendre les pieds dans le tapis, mais finalement il est aussi pas mal, il est assez puissant. Donc c'est un langage sur lequel finalement c'est un peu je t'aime moi non plus pour pas mal de gens. Mais néanmoins, il y a quand même des bonnes pratiques qui commencent à émerger, donc notamment Twitter qui a fait Effective Scala, qui explique les bons patterns d'usage de Scala pour avoir un code qui soit à la fois efficace mais qui reste lisible, ce qui parfois peut poser problème sur Scala. Je sais pas si vous avez vu aussi, il y a des gens de JRuby qui ont fait une série de posts. Je sais pas si
Non,
vous dites
tu
quelque
m'as l'air
chose.
chaud.
Ouais, donc en fait, ils font une série de posts et ils expliquent finalement. Un peu ce qu'elle a les bonnes parties, ce qu'elle a les mauvaises parties, c'est un peu. Enfin, c'est assez intéressant, je trouve, donc on mettra le lien dans les show notes. Et puis finalement, en réaction à ça, donc on arrive aujourd'hui sur. Alors, il y a d'autres langages, il y a Phantom, Gozu, qui sont des langages qui cherchent vraiment à être super simples dans leur syntaxe. Et puis on arrive sur les deux petits derniers, qui eux visent la compilation statique, ils visent à simplifier un peu par rapport à ce qu'elle a, j'imagine. On a Kotlin de chez JetBrains, qui font donc IntelliJ, IDEA et tous ces outils-là, TeamCity et compagnie. Et puis Celon de Red Hat, sur lequel on va un peu plus se focaliser aujourd'hui. Alors j'aurais ma première question, qui serait finalement quelque chose que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle le elevator pitch, donc j'imagine que vous connaissez. L'idée c'est vous rencontrez quelqu'un, vous allez monter trois étages et vous devez leur expliquer durant la levée de l'ascenseur finalement ce qu'est votre projet. Alors comment vous définiriez Celon?
Je crois que la tagline est pas mal pour ça de Celon, c'est Say more, more clearly, c'est-à-dire en dire plus et de façon plus claire. C'est vraiment le but premier de Celon, d'avoir un langage qui soit un petit peu plus puissant que ce qu'on a avec Java et qui soit aussi clair, sinon plus.
D'accord, Emmanuel, tu es d'accord avec ça?
Ouais, c'est ça. Et puis évidemment, par-dessus, on a greffé d'autres choses. Une des, enfin, d'autres objectifs. Un des objectifs, c'est notamment, si possible, d'éviter justement d'avoir des patterns de bonnes pratiques. Donc il y a pas mal de choses qu'on a restreint dans le langage pour que vous n'ayez pas le choix et pour que justement il n'y ait pas des combats stupides d'équipe sur quelle est la bonne pratique pour faire ceci. On aimerait que ça soit simple. Et la bonne pratique, c'est ça, et on part dessus et on est productif.
Toujours dans cet esprit finalement de généralité sur Celon. Alors la question qui revient à peu près souvent, enfin qui est une question que je me pose moi-même, mais qui apparaît aussi pour pas mal de gens, et c'est les retours qu'on a eu par exemple sur Twitter pour préparer cette interview. Finalement, ok, il y a plein de langages qui émergent sur la JVM. Il y en a vraiment des tonnes dans tous les sens. Qu'est-ce qui justifie finalement de démarrer un nouveau projet aujourd'hui pour Red Hat? En quoi vous pensez avoir une meilleure vision? Voilà, qu'est-ce qui justifie finalement cet effort?
Disons que le truc, c'est que faut voir que ça n'existait pas vraiment ce qu'on a essayé de faire avec Celon quand on a commencé à faire Celon. On cherchait à faire un langage qui soit statique et qui soit assez proche de Java dans la syntaxe, de façon à ce que les gens puissent passer de l'un à l'autre sans se poser de questions. Un petit peu de la même manière que les gens sont passés de C++ à Java avec beaucoup de choses qui sont familières, mais en restreignant le nombre de pièges sur lesquels on pourrait tomber en tant qu'utilisateur. Donc on voulait quelque chose de clair et qui soit dans les pistes, comme disait Emmanuel, pas avec des best practices, pas avec si on se souvient de C++ à l'époque, chaque équipe effectivement avait tout un pavé de best practices et de choses à faire, choses à éviter en C++ pour que le projet soit maintenable. Donc on voulait qu'il y ait juste une façon de faire les choses, comme Java a fait à la base, mais en même temps plus moderne que Java, qui quand même avec la, il commence à avoir de l'âge, hein, et la vitesse à laquelle ça évolue, c'est pas forcément facile pour Java parce qu'ils doivent garder toujours la compatibilité en arrière. Et ça fait que créer un nouveau langage avec en plus un nouveau SDK, parce que c'est aussi l'objectif de Celon, c'est d'avoir aussi une nouvelle plateforme complète qui soit plus moderne et qui est quelque chose qui serait un pas en avant que Java peut pas se permettre à cause de la compatibilité en arrière.
Ouais, c'est ça en fait. Donc c'est le langage finalement, c'est super, etc. On peut s'amuser à avoir des syntaxes extrêmement régulières, qui est un des objectifs de Celon. Mais l'objectif derrière, c'est de construire une stack qui est, on va appeler ça industrielle, et qui est très pratique, beaucoup plus moderne et beaucoup plus pratique à utiliser qu'on a aujourd'hui, tout en restant dans ce paradigme statique. Donc voilà, il y a plein de, enfin, il y a Groovy typiquement est parti du côté dynamique. Grails est une plateforme extrêmement intéressante qui s'appuie sur les capacités dynamiques de Groovy. Nous, on est plutôt du camp des gens qui croient que la compilation statique apporte beaucoup de choses, spécialement en équipe. Qu'elle commence à être de petite taille, mettons 5 personnes, voire, et surtout dans les équipes plus grosses. Et donc, on préfère avoir un langage qui est encore plus typé que Java, puisque finalement, un des défauts de Java et qui a créé ces problèmes de langage dynamique, c'est qu'il était relativement verbeux et pas assez typé. Voilà.
Ce que vous l'adressez par là, en fait, finalement, c'est favoriser au niveau des IDE les complétions, avoir une meilleure documentation parce qu'on connaît les types, c'est des choses comme ça.
On voulait un meilleur système de type qui soit plus puissant que celui de Java. C'est-à-dire, quand on a vu l'introduction des génériques, tout le monde a appris qu'il y avait l'effacement des types et des choses assez bizarres liées à la variance. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Mais il y a pas mal de choses qui sont pas du tout intuitives dans les génériques, qui ont à faire avec la compatibilité en arrière. Et c'est quelque chose qu'on veut résoudre. Il y a beaucoup de choses qui sont pas finies vraiment dans le système de type Java pour des très bonnes raisons à l'époque. Mais le fait est que voilà, dans les langages dynamiques, on parlait tout à l'heure de Groovy, JRuby, Clojure, il y en a pas mal. Donc là-dessus, il n'y avait pas forcément à faire de nouvelles contributions. Mais sur le côté des langages statiques, qui soient une évolution de Java, il n'y avait pas tellement d'autres projets qui correspondent à ça en fait.
Ouais. D'accord. Puis c'est aussi une remise à zéro. C'est Gavin qui a beaucoup beaucoup travaillé là-dessus, Gavin King. Et il a regardé de manière holistique C++, Java évidemment, parce qu'on reste quand même des gros fans de Java, Haskell, Scala évidemment, mais Scala a emprunté pas mal à d'autres langages aussi, et de regarder qu'est-ce qui est naturel dans une structure à la C avec des accolades, etc. Qu'est-ce qui ne l'est pas et comment on peut faire pour avoir le moins de construction possible native dans le langage, tout en gardant 90% de ce qu'on peut faire dans Java et en rajoutant, mettons, 50% de choses supplémentaires qu'on peut pas vraiment faire facilement en Java.
Ok, ouais. Et alors, justement, en termes de paradigme, donc, Celon, c'est un langage qui est objet, qui est une compilation statique. Est-ce que, justement, il morce le fonctionnel ou est-ce qu'il embrasse le fonctionnel?
Alors, il encourage le fonctionnel, en fait. Hein. Dans Celon, on a les méthodes qui sont, par exemple, par défaut, finales. On a les variables qui sont, par défaut, immuables. On essaye d'encourager la compilation, le paradigme fonctionnel avec des objets qui ne changent pas et un support pour tout ce qui est fonction de première classe. Dans Celon. Donc on l'encourage, mais en même temps, c'est pas un langage qui est purement fonctionnel. C'est-à-dire qu'on peut quand même muter des variables, on peut quand même itérer avec du code procédural. Il y a un mix des deux.
D'accord, un peu comme Scala fait, à l'inverse de Clojure qui lui force vraiment la mutabilité sur quelques parties très, très définies, quoi.
Voilà.
Je pense que c'est moins qu'on est plus conservateur que Scala là-dessus. Parce que Scala, leur objectif, hein, initial en tout cas, c'était de merger le concept d'orienté objet et de fonctionnel, d'accord?
Tout à fait, ouais.
Et nous, je crois qu'on trouve que l'approche fonctionnelle, premièrement, elle est tellement différente, elle n'est pas forcément facile à comprendre, notamment pour des débutants, même des non-débutants d'ailleurs. On va rajouter des touches fonctionnelles, mais on va être beaucoup plus conservateur que Scala là-dessus. On va toujours se demander, est-ce que ça apporte de manière significative quelque chose par rapport à ce que l'on a aujourd'hui dans le langage? Oui et non. Et si c'est oui, on rajoute la fonctionnalité. Si c'est non, on va décider de, en tout cas pour la 1.0, de ne pas la mettre.
D'accord. Alors justement, juste pour clore sur les généralités, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots rapidement sur l'historique du projet, comment ça a démarré, quand, et qui finalement aujourd'hui travaille sur Celon?
Ouais, alors ça a démarré en 1600. Non.
Celon?
Très sérieusement, enfin plus sérieusement, donc c'est une idée. En fait, c'est venu de la frustration de certaines personnes à JBoss par rapport à Java. Donc, quand on regarde l'historique JBoss, on a fait un serveur d'app, ensuite on a commencé à bosser sur des specs. Ensuite, Java 5 est arrivé, ce qui a vraiment été un boost pour nous, notamment les génériques, les annotations. Et là, on a commencé à construire des specs qui poussaient à bout le système de type de Java, bin validation, et surtout CDI, Context Dependency
Ouais.
Injection. Et là-dessus, Gavin, voilà, a trouvé les limites, s'est trouvé un petit peu frustré des limitations de Java, et a commencé à réfléchir à qu'est-ce que serait un langage qui ressemble à Java, mais qui n'aurait pas ses problèmes. Et voilà, il est parti comme ça, travailler sur une spec, sur sa moto, voilà. non, et puis il a demandé du feedback à des gens de JBoss, et puis. Une fois qu'on était à peu près content de la direction, on s'est dit bon bah allez banco, on essaye de pousser ça. Donc on a commencé à écrire un compilateur avec des gens à l'interne de chez OpenJDK notamment. Et puis il y a un petit truc intéressant qui est arrivé, c'est qu'on a Gavin s'est dit tiens, je vais aller faire une petite conférence pour en parler, pour tâter le
La
terrain.
fameuse conf, la QCon en Chine,
La QCon en Chine, il s'est dit Beijing, hein, c'est peu connu quand même.
ouais.
Alors, il y a un monsieur qui a fait un blog très partiel, enfin très impartial d'ailleurs là-dessus, en disant voilà ce que Gavin décrit. Et puis on a été slash doté. Et puis là, il y a eu, c'était la guerre des étoiles pendant un certain temps. Donc en gros, on a été le premier langage à être slash doté sans site web, ce qui est assez impressionnant. voilà. Et du coup, ça nous a, enfin déjà, on a été impressionné par la virulence sur finalement un concept qu'on avait à peine. Montrer sans montrer le détail de l'aspect, etc. Mais ça a été quelque chose de très positif pour nous, puisqu'il y a des gens qui sont venus, notamment comme Stéphane, en disant eh, moi, ça m'intéresse la vision que vous avez sur le langage, est-ce qu'on peut contribuer? Et donc là, on a commencé à ouvrir en communauté, mais fermée, à accepter des gens qui étaient intéressés pour travailler dessus. Et je fast forward un petit peu quelques mois, et on a décidé d'ouvrir le code le plus tôt possible dès qu'on était à peu près stable dans notre vision, en open source complet. Donc le site web est open source, le code est open, le compilateur est open source, la spec est open source, etc., etc. Et là-dessus, on a continué à faire grossir la communauté. Et maintenant, on en est à la milestone numéro 2, qui s'appelle Minitel, qui notamment a l'interopérabilité avec Java.
Qui est sorti la semaine dernière.
Qui est sorti la
Ouais,
semaine dernière.
tout à fait, ouais.
Ouais, je me souviens très bien de cette époque où ça a été slash doté, parce que c'est la première fois où j'ai entendu parler du langage, comme tout le monde. Je regardais slash dot, je suis allé voir les slides, je suis resté un jour à lire tout ce qu'il y avait sur les slides, et ensuite dans l'adresse mail qui venait sur le site In Relation To, où Gavin a posté ensuite des blogs pour expliquer le langage. Et c'est vrai qu'il y avait des réactions, enfin des réactionnaires. C'était assez virulent, la violence des propos des gens qui disaient que c'était vraiment le dernier truc à faire, et sans vraiment avoir de bonnes raisons pour dire ça. Et je me souviens que je lisais les commentaires des gens qui disaient que c'était une absurdité. Et moi, je me disais, mais non, pas du tout, ce langage, ça a un sens, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs, ce qu'ils essayent de faire, ça, enfin, je le voyais pas dans d'autres projets. Et j'ai réussi à contacter Gavin en lui disant ce que je pensais de ça. Et on a commencé à discuter, parler un petit peu plus des features, de ce qui allait pas dans le langage. Et dans la conversation, il a mentionné que le compilateur, ils avaient plus personne pour travailler dessus et qu'il compilait pas. Donc je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas avoir un langage sans compilateur. Donc on a commencé à bosser sur le compilo et en quelques semaines, on a réussi à avoir quelque chose qui commençait à compiler. Donc on a pu continuer à s'amuser et on s'est fait assez vite rejoindre par d'autres contributeurs qui pensaient la même chose, qui disaient, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs, on veut le voir aboutir, on veut pas que ça n'aboutisse pas, on veut le finir, donc on va aider.
Ouais, je pour clore là-dessus, moi je pense qu'il y a une leçon quand même là-dedans qui est à retenir, et je pense que du coup vous l'avez à la fois apprise et illustrée, c'est que quand on commence par publier des slides sur un langage et qu'on n'a pas encore de compilateur à faire tester aux gens, je crois que ça génère une grosse frustration et je pense que ça explique pas mal de backslash que vous avez pu avoir.
C'est pour ça qu'on est resté dans le noir si longtemps après, dans une communauté fermée. C'est-à-dire qu'on voulait l'ouvrir, parce que voilà, Red Hat, c'est une société ouverte plus que fermée, en tout cas. Mais effectivement, tant qu'on n'a pas quelque chose à montrer, ça ramène plus de choses mauvaises qu'autre chose. Cela dit, voilà, ça nous a ramené une communauté, ça a créé une communauté, cet effet Slashdot, donc ça a été positif pour nous.
Ouais, c'est sous dossier, ouais.
Oui, c'était quand même pas mal d'ouvrir le projet avant que les choses soient finies, parce que tous les contributeurs qu'on a eus depuis, moi y compris, ont contribué vraiment non seulement à l'implémentation, mais aussi à des changements sur le langage. Hein. Le langage tel que l'a présenté Gavin et le langage tel qu'il est maintenant a pas mal changé et vraiment le fruit de consensus dans le groupe des contributeurs.
Voilà. D'ailleurs, j'aime pas trop quand tu dis c'est le langage de Red Hat, parce que finalement, c'est plus le langage de la communauté Ceylon. Alors effectivement, Red Hat, il y a un certain nombre de gens full-time dessus, mais il y a plus de gens qui ne sont pas Red Hat que de gens qui sont Red Hat.
Ouais, alors justement, on va passer un peu sur le langage maintenant. Donc sur le langage, j'aurais plein de choses à dire. Il a plein de caractéristiques communes à Java, communes à d'autres langages, et puis qui sont plus particulières. Donc on va évidemment pas se faire un catalogue de la syntaxe, mais quelques questions. Donc est-ce que ce langage par exemple, supporte des... J'ai vu qu'il a un support de propriété, chose qu'on n'a pas à Java par exemple. Deux mots là-dessus.
Oui, alors bon, ça c'est pas particulièrement ambitieux puisque c'est quand même la chose qui n'existe pas sur Java, mais que quasiment tous les autres langages qui ont été faits après et même certains avant ont, c'est-à-dire que en Java on a des champs dans les classes et puis on a une spec qui s'appelle les Java Bean qui dit que quand on a une méthode get et une méthode set avec le même nom derrière, ça représente un accesseur virtuel et un setter virtuel.
Voilà, c'est basé sur des conventions.
Hein, voilà, c'est basé sur des conventions, mais en fait, quand on regarde C#, ça fait longtemps qu'eux, ils ont bien ça dans le langage, c'est-à-dire un accesseur et un muteur qui soit une méthode qui est invoquée quand on lit une variable ou quand on accède à une variable. Donc ça s'appelle des propriétés.
Ouais, et c'est comme les properties, si on fait de l'Objectif-C, enfin bref.
Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on supporte dans Ceylon, parce que effectivement, le boilerplate requis pour avoir des Java Bean en Java, c'est d'un autre temps, quoi. Mais c'est pas. Ouais. C'est un petit peu le standard qu'on attend de n'importe quel langage de nos jours.
Ouais. Là où on est un tout petit peu différent, c'est que finalement, un champ, donc, qui est ce qu'on appelle plutôt un attribut, il est aussi polymorphique qu'une méthode. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire qu'il est surchargeable dans une sous-classe, surcharger son implémentation, donc son getter ou son setter, dans les sous-classes, etc.
Oui, on peut les déclarer virtuels.
Pardon ?
On peut les déclarer abstraits, en fait.
Voilà, on peut les déclarer abstraits, voilà. Et ça fait partie aussi de ce côté hyper régulier de Ceylon, c'est-à-dire que s'il y avait des concepts qui étaient similaires, on a essayé de les rendre uniques ou d'avoir un tronc commun pour simplifier pour nous plus tard l'évolution des fonctionnalités en fait. Parce
que, ouais, donc, ouais.
Vas-y.
Donc en fait, ce que vous voulez dire par là, c'est qu'au lieu d'accéder directement à l'attribut de la classe, comme ça peut être le cas en Java, en fait, on passe systématiquement par les méthodes qui encapsulent la propriété, c'est ça?
Voilà. Et qu'on okay. peut définir des getters, des setters qui soient vraiment des méthodes avec du code plus complexe que lire une variable.
Ouais. D'accord, ok, ouais. Alors, justement, moi, que j'ai regardé un petit peu Celon, alors je n'ai pas fait beaucoup, mais j'ai regardé un peu, il y a un truc qui m'avait surpris, et c'est un peu aussi un écho que j'ai eu de pas mal de gens, quand on vous a vu, par exemple, à Devox ou autre. La visibilité, donc c'est pas public, comme en Java, en Scala, ou dans d'autres langages, ça s'appelle shared. Et finalement, la première réaction, alors c'est un choix, mais finalement, la première réaction, c'est de se dire shared, c'est plutôt une sémantique classiquement de lock, enfin de choses qui est mise en concurrence. C'est peut-être un point de détail, mais qu'est-ce qui finalement vous a fait choisir shared, par exemple?
Je pense que la raison pour laquelle ça a été choisi, c'était que on a un modèle de visibilité qui est complètement différent de Java. Et on voulait pas qu'il y ait d'erreur et de se dire que shared et public c'était la même chose et que donc il y avait aussi private, protected et package private. Ce qui n'est pas le cas en Celon. On a un mécanisme qui est beaucoup plus simple où on a shared et visibilité privée. Donc quand il n'y a pas shared, il n'y a que l'unité de code courante qui peut voir la méthode.
Donc ça c'est par défaut.
Voilà, et quand c'est shared, c'est exporté en dehors du package.
D'accord.
Enfin en dehors de l'unité de code.
Oui.
D'accord, ouais, ok. Donc on fait des unités dans lesquelles on met des classes, et seulement celles qui sont shared seront exportées finalement pour les autres.
Voilà,
en fait le meilleur nom... Le meilleur nom, je pense que c'est shared, mais je pense qu'on pourrait utiliser visible si vraiment shared ça pose problème rapport à des locks ou à des partages de variables à travers des threads.
Visible, d'accord.
C'est visible en tout cas à l'unité et aux gens qui sont capables de voir l'unité.
Sur notre issue tracker de la spec de Celon sur GitHub, on a, je sais qu'on a une issue qui est ouverte là-dessus. Sur le modèle de visibilité, et donc c'est quelque chose qui est en discussion. Je crois qu'on n'est pas encore arrivé à un consensus, mais c'est quelque chose, si les gens pensent qu'ils peuvent trouver une meilleure idée ou quelque chose, ou s'ils voient qu'il y a quelque chose qui va pas, ils peuvent tout à fait venir et rajouter des commentaires sur l'issue de façon à ce qu'on arrive, voilà, qu'on en discute.
Ok, très bien. Alors après, il y a autre chose quand même qui est assez caractéristique et qui, pour le coup, si je me trompe pas, exactement comme dans Kotlin, c'est la gestion des nuls. Alors sur la gestion des nuls, donc en Java, je pense que tout le monde s'est déjà pris en cascade des null pointer exception, ça c'est super classique. Et finalement, les solutions pour ça, donc il y en a plusieurs. Alors par exemple en Groovy, il y a le fameux opérateur Elvis qui amuse beaucoup Guillaume, mais qui permet de déréférencer uniquement si la valeur est non nulle. Donc ça c'est un premier artifice. Mais après, pour être capturé plus au niveau du langage, par exemple dans ce cas-là, il y a le type option. Qui vient de, je ne sais plus comment, en Haskell, mais c'est un type, finalement, qui soit a une valeur, soit n'a pas de valeur, mais qui permet donc de dire que la valeur, elle est peut-être là ou pas. Donc ça permet de faire des choses, des enchaînements monadiques derrière, pour ceux qui aiment. Dans Guava, par exemple, de Google, il y a quelque chose de très similaire qui s'appelle la classe Optional, qui fait exactement ce que fait Option dans ce cas-là. Et vous, en fait, dans Celon, et comme dans Kotlin, vous n'avez pas ça. Mais par contre, le compilateur vérifie si la valeur est nulle ou pas. Alors, est-ce que vous pouvez un peu élaborer là-dessus?
Alors, c'est pas exactement ça. Ce qu'il y a, il me semble, à moins que je me trompe, mais dans ce cas-là, dans Guava, c'est qu'il y a une classe qui s'appelle optionnelle qui prend, qui peut avoir un membre qui va être nul ou non nul. Mais il n'y a pas de support particulier dans le système de type pour
oui,
ça.
Oui, t'as raison. Le type,
c'est de la libre.
La valeur nulle existe. Elle existe, voilà. Mais pour se protéger du nul,
on passe
peut
par une indirection, en fait.
Voilà.
Donc, il n'y a pas de support dans le système de type pour ça. Nous, on a dans le système de type de Celon, on a les types, les types union. Qui nous permet de dire que une certaine variable va être soit de type A, soit de type B. Et en fait, le type optionnel en Java, en Celon, quand on dit qu'on va avoir quelque chose qui est une string ou qui peut être nul, on va avoir en fait quelque chose qui soit du type string, soit du type nothing. Quand on a le point d'interrogation, c'est une syntaxe courte pour dire, c'est du sucre syntaxique pour dire, c'est soit string, soit nothing. Et en fait, avant de pouvoir accéder au contenu de la variable, il va falloir déterminer si on a une instance de type nul ou une instance de type nothing. Et les méthodes, les opérateurs et les méthodes qui permettent d'accéder au contenu de variables qui sont potentiellement nulles doivent s'assurer avant de pouvoir y accéder qu'il y a bien quelque chose dedans. Donc là, c'est vraiment dans le système de type que c'est inscrit qu'on peut pas faire n'importe quoi avec quelque chose dont on sait pas vraiment le type. On sait pas si c'est nul ou pas.
D'accord. Et donc le compilateur vérifie en fait les branches, il fait de l'analyse de branches pour voir si on va potentiellement faire un appel nul. Pas sur une valeur qui peut être nulle potentiellement.
C'est même pas une analyse de branche, c'est vraiment une analyse de type. On a des opérateurs qui peuvent prendre quelque chose qui ne peut pas être nul. C'est-à-dire que si on prend un objet de type string, on peut pas prendre quelque chose qui soit string ou nul. On doit être d'abord, le code doit raffiner le type de l'objet de façon à être sûr qu'il ne peut pas y avoir de nul à l'intérieur.
D'accord, donc concrètement, on est obligé de mettre des if qui vont bien.
Voilà.
If existe, voilà.
If existe,
la valeur, ça veut dire qu'elle n'est pas nulle, je fais quelque chose. Sinon, elle est nulle, donc je fais autre chose.
Voilà. Et à l'intérieur à l'intérieur du if, ce qui est original, c'est que le type de la variable, elle est raffinée. C'est-à-dire que, en dehors du if, si on a soit string, soit nul, on va avoir la variable qui est déclarée comme ça, et à l'intérieur du if, quand on sait qu'elle existe, la variable va être automatiquement raffinée, on sait qu'elle ne peut plus être nulle, et donc on peut y accéder.
Voilà, il n'y a pas de sous-typage ou de choses comme ça, en fait.
Ouais, alors justement, sur le système de type, hein, parce que c'est une des déficiences, en fait, sur lesquelles vous vouliez vous appuyer, c'est des choses que vous avez identifiées comme étant plus ou moins déficientes dans Java, enfin, en tout cas, peut-être pas déficientes, mais améliorées. Donc justement, vous faites ce qu'on appelle de la réification de type. Alors, juste pour expliquer, finalement, donc dans Java, quand on compile, par exemple, une liste d'objects ou autre, on peut avoir des types intersections qui existent, qui sont utilisés à un moment de la compilation pour faire de la vérification de type. Mais concrètement, tous ces types-là n'ont pas d'existence au niveau de la machine virtuelle et vous les réifiez. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu justement de l'aspect generics dans votre langage, comment vous le gérez et comment en particulier vous gérez, je me plante tout le temps là-dessus sur contrat, covariance, mais finalement c'est ces notions qu'on voit apparaître avec, en Java avec pour l'interrogation extends quelque chose, comment vous gérez ça?
Alors en Java il y a quelque chose qui est assez rigolo, c'est qu'effectivement avec les génériques on peut avoir des types intersections en Java sur les interfaces. C'est quelque chose qui est pas très connu, mais quand vous déclarez une classe qui prend un générique qui s'appelle T, et qu'on va dire que ce T doit faire un extends d'une interface, number par exemple, on peut rajouter d'autres interfaces, c'est-à-dire on peut dire T extends number et foo et bar.
Donc, ouais, par exemple pour les chaînes de pour string, et par exemple ça va satisfaire serializable and char sequence par exemple.
Voilà,
on peut définir comme
on
ça.
On peut définir des types intersections, c'est-à-dire qu'ils doivent satisfaire toutes ces interfaces-là en Java, mais uniquement à cet endroit-là. C'est-à-dire que si on veut après faire un cast de quelque chose qui soit type A et B et C, on peut pas. On peut pas non plus déclarer une variable qui soit de type A et B et C. On peut juste le faire pour les contraintes de type générique. Donc nous, c'est quelque chose qu'on a voulu résoudre, et on a effectivement le support de première classe de type intersection, c'est-à-dire qu'on peut définir une variable qui est de type A et B. Peu importe l'implémentation de cette variable, on sait qu'elle va satisfaire l'interface A et l'interface B, et peut-être d'autres, mais on s'en fiche. Et on a aussi le type union dont on parlait tout à l'heure pour dire que quelque chose doit être de type A ou B. Donc après, il va falloir s'assurer qu'on a l'un ou l'autre avant de pouvoir appeler les méthodes de A ou les méthodes de B. Donc ça, c'est deux aspects assez forts du système de type en Celon.
Cela dit, juste pour te couper, voilà, quand on a l'union, donc c'est A ou B, en fait, A ou B, ça va se résoudre au type commun le plus spécialisé des deux. Donc si vous avez si vous avez C qui est étendu par A et B et qui a une méthode, vous allez pouvoir appeler toutes les méthodes de C dessus.
Oui, puisque les deux interfaces les deux supportent cette méthode.
Voilà.
OK.
Et pour revenir sur la variance, alors la variance c'est quelque chose qui est un petit peu embêtant à, enfin c'est pas embêtant à comprendre parce que c'est facile à comprendre, mais c'est dur de se souvenir parce que il y a la covariance et la contravariance. Et en fait en Java, il y a le support de la covariance, c'est-à-dire que quand on redéfinit une méthode dans une sous-classe, on peut dire que le type de retour de la méthode qu'on redéfinit est plus spécifique que celui de la superclasse. C'est-à-dire que si on a une interface top et bottom, bottom qui est sans top, on peut dans une superclasse dire je retourne top et dans une sous-classe je retourne bottom.
Donc, qui est plus spécifique, ouais.
Qui est plus spécifique et on peut se permettre ça parce que toutes les instances de bottom sont assignables à top. On peut toutes les faire
Bien
rentrer
sûr,
dans un top. Donc ça marche. Quand on appelle la méthode, ça peut pas planter. Et il n'y a pas le support de la contravariance, qui est l'équivalent, mais dans les paramètres, c'est-à-dire qu'une sous-classe va prendre des paramètres qui soient plus, non pas plus spécifiques, parce que sinon on rompt le contrat, mais là c'est dans l'autre sens, qui prennent des paramètres qui soient plus génériques. C'est-à-dire qu'une superclasse prendrait string et une sous-classe prendrait object. Il n'y a pas le support pour la contravariance en Java parce que il y a l'overloading. On peut déclarer plusieurs méthodes qui aient le même nom et qui prennent des paramètres différents. Donc on ne peut pas avoir le support pour la contravariance en Java. Il y a un endroit où on peut s'attendre à avoir du support pour la variance aussi, c'est pour les types génériques. C'est-à-dire si on a une liste de objects et une liste de strings, on peut s'attendre à ce qu'on puisse affecter une liste de strings dans une liste de objects, ce qui n'est pas le cas en Java.
Ok, alors donc maintenant un point aussi qui revient souvent dans les griefs contre Scala ou pour Scala, ça dépend un peu des points de vue, on va pas rentrer dans ce débat. Il y a la surcharge des opérateurs. Qu'est-ce que vous avez choisi de faire, vous, dans Celon, sur le sujet?
Alors en fait, ce qu'on veut pas faire, ce qu'on veut, c'est que le code il soit lisible. C'est la règle numéro 1 de Celon. C'est-à-dire, même si tu viens de Java ou tu viens de C, tu vas plus ou moins comprendre le code. Un truc qui est problématique dans ce genre de choses, c'est quand on peut surcharger les opérateurs de manière libre et qu'on puisse transformer l'idée de plus ou slash ou point d'interrogation pour faire un petit peu ce qu'on veut. Parce que là, d'un coup, ça devient un DSL un petit peu qui n'est connu éventuellement que de gars qui l'a inventé et pendant 3 jours. Voilà. Et donc, cela dit, la surcharge d'opérateurs, elle est utile. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini des interfaces. Par exemple, alors je me rappelle plus le nom exact, mais mettons summable, qui dit voilà, ce truc-là peut être additionné. Et si ton objet implémente summable, eh ben tu vas pouvoir utiliser l'opérateur plus dessus.
Ok,
D'accord?
donc c'est un jeu d'opérateurs mais qui est très confiné
Bah, qui est associé à une interface, qui a un
Ouais.
contrat qui définit clairement ce que veut dire une addition. Après, tu
D'accord.
peux éventuellement aller à l'encontre de ce contrat-là, mais c'est mal.
D'accord,
Faut se
Donc,
souvenir quand même que la surcharge d'opérateurs libre et sans contrainte, c'était un des griefs qu'on avait contre C++ et qu'on a adoré qu'ils ne mettent pas dans Java.
Ouais, et c'est vrai, pour ce cas-là, ça, c'est vraiment un cas où il y a des DSL qui sont effectivement super, super tordus avec des plus, bang, bang. Enfin, ça
Bah, il y
peut
a
vite
toujours l'exemple de
devenir.
base où il y a le ASCII art et les gens demandent qu'est-ce que ça veut dire.
Ouais.
Ça, c'est des gens qui aiment pas ce cas-là.
Ouais, tout à fait, ouais. Autre point, finalement, qui est un petit peu commun à tous ces nouveaux langages, la gestion des exceptions. Donc en Java, les exceptions, on a les unchecked exceptions, genre runtime exception et compagnie. Puis on a les checked exceptions, donc qu'on doit soit catcher, soit déclarer avec des throws au niveau des méthodes pour dire qu'elles sont rejetées. Vous avez fait quel choix, vous?
Alors nous, on s'est rendu compte, et je pense que c'est quand même un constat qui est assez majoritaire, que les checked exceptions, ça apportait une contrainte, c'est-à-dire avoir à déclarer toutes les exceptions qu'on peut lancer, ça apportait plus de contraintes que d'aide. C'est-à-dire que la plupart des gens vont, pour éviter à faire ça, prendre leur exception et la mettre à l'intérieur d'une runtime exception. Et en fait, et ça peut se faire, ça peut se répéter tout au long de la pile. À chaque fois qu'on rattrape une exception, on la fourre dans quelque chose qui la cache. Et au final, tout en haut de la pile, quand on a une exception, on se retrouve à avoir à chercher la vraie cause de l'exception, et de temps en temps, elle est cachée au milieu de 10 exceptions. Nous, ce qu'on voulait, c'est
D'accord.
de dire une exception qui est tout en bas, On n'a pas envie d'avoir 40 surcouches tout au long de la remontée de l'exception. On voudrait obtenir cette exception directement. Et donc d'enlever le de rendre option, enfin de rendre
Ouais, de pas
de pas
l'avoir.
demander de pas demander de déclarer ces exceptions, ça permet d'avoir des exceptions sans les cacher, quoi.
Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est un choix qu'on voit dans tous ces nouveaux langages. Enfin, même Groovy, par exemple, l'avait fait il y a très longtemps. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est assez commun. Alors après aussi, est-ce que donc dans Cylon, donc vous avez votre propre runtime, c'est un point que vous avez mentionné au début. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous basez pas enfin, quand on fait du Cylon, on s'appuie pas sur Java Lang, Java X Util, enfin non pas Java Util ou autre. On se base sur Cylon quelque chose. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette API standard de Cylon?
Alors, pour l'instant, pas grand-chose, parce que on a pour l'instant la partie langage, c'est-à-dire l'équivalent de Java Lang.
Ok.
On n'a pas, donc on a tout ce qui est nécessaire pour faire tourner le langage, tous les types de bases, les opérations, les interfaces, et on n'a pas encore tout ce qui est librairie. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va commencer à travailler pour la milestone en cours, la milestone 3. Mais le but, c'est d'avoir effectivement l'équivalent en termes de fonctionnalité du JDK, mais moderne.
Ok. Alors justement, quand on veut aller vers le JDK, parce que donc Java, c'est pas qu'un langage, c'est surtout un écosystème avec plein de bibliothèques, de frameworks dans tous les sens. Comment ça marche l'interop entre Java et Celon? Si je veux récupérer, je sais pas, Hibernate par exemple, Emmanuel.
Alors, je vais pas te répondre, mais je vais
Alors,
laisser Stéphane répondre.
l'interopérabilité, donc ça c'était vraiment le focus de la deuxième milestone qu'on a sorti la semaine dernière. Je pense qu'on s'en est pas mal sorti parce qu'il y a beaucoup de concepts Java qui ne trouvent pas qui ne trouvent pas d'équivalent direct en Cylon. Et donc il a fallu trouver comment faire pour rentrer ça dans le langage. Et au final, par exemple, si on veut se servir de Hibernate, ce qu'on a comme support dans la deuxième milestone, c'est qu'on peut déclarer, on peut utiliser les repositories de modules de Maven. Donc, parce qu'en Cylon, les modules sont dans le langage directement, hein. Quand on compile du Cylon, on a directement un module. Et on peut dépendre d'un autre module, et en l'occurrence, on peut aussi dépendre de modules qui sont définis dans Maven. Donc on peut dépendre du module Hibernate qui est sur Maven Central, et de là utiliser l'API. Il y a tous les appels Java, tous les types Java sont supportés en Cylon, il y a une interopérabilité qui est totale.
Donc tu peux
D'accord.
décider d'importer des packages Java finalement,
Java.
pour faire court.
D'accord, ouais. Ok, et finalement, puisque le système de type est un peu plus riche côté Cylon, c'est moins embêtant dans ce sens-là, quoi. C'est ça?
Bah oui et non, parce que
Ouais.
regarde, on fait pas d'overloading de méthodes. Donc à un
Ouais. Ah
moment,
oui.
il faut trouver un moyen de pouvoir appeler des méthodes qui ont été surchargées en Java alors que ce concept n'existe pas en Cylon.
D'accord.
Voilà. Enfin, pour les appeler, ça marche. C'est si on veut les redéfinir que là, ça commence à devenir plus compliqué.
Ok, ouais. Alors, toujours dans cette partie langage, un point qui est assez recherché dans tous ces nouveaux langages qui émergent par rapport à Java, c'est de rendre plus simple la création de DSL, et c'est un domaine où notamment Groovy avec ses builders excelle depuis des années. Comment on peut faire facilement un DSL avec Celon?
Ouais, tiens, juste avant, je veux
Ouais.
rebondir sur ta question d'avant. Une des tendances chez JBoss, c'est d'être ce qu'ils appellent polyglotte.
Ouais.
Et donc, on a évidemment, historiquement, on est Java, d'accord, et on reste sur la VM. Cela dit, il y a des gens qui ont commencé à travailler sur un truc qui s'appelle Torqbox,
Ouais, pour JRuby, ouais.
qui permet d'avoir tout le runtime JBoss au sens qualité, en tout cas si vous estimez qu'il est de bonne qualité, moi je l'estime, et l'utiliser dans un monde Ruby, mais nativement en Ruby. C'est-à-dire que ça ressemble à une rubyisation du truc. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de dire, ah bah là d'un coup je passe dans un monde Java avec des appels bizarres, non. Ils ont fait tout un travail d'abstraction et de packaging pour que vous restiez dans votre monde Ruby, mais vous bénéficiez du messaging, des transactions, etc.,
Ouais, c'est ça.
etc.
Donc,
Hibernate Search.
tu vas faire une application en Rails, mais derrière, tu vas taper sur les API du monde Java EE et avec tout l'intérêt d'avoir un serveur d'application pour la partie management.
Voilà, donc Talkbox va, voilà, va taper dans les API en dessous pour faire le boulot. Et
C'est ça.
donc,
Et
quand on réfléchit à Celon, on peut aussi, tu vois, c'est une. Alors, c'est vrai pour Talkbox, c'est vrai pour d'autres Clojure, ils ont démarré un projet qui s'appelle Immutant. Dans la même veine. Et Celon, tu vois, on peut dire, ah, mais ces gars-là, ils vont jamais réussir à finir tout un SDK là-dessus. En fait, on peut aussi utiliser cette approche-là de dire, bah, dans un premier temps, en tout cas, voilà, il y a un certain nombre de services qu'on n'a pas besoin
On
de
va
réécrire en
développer,
Celon, on va pas réécrire un moteur transactionnel en Celon, on va juste le rendre nativement naturel, entre guillemets, d'utilisation dans Celon et s'appuyer derrière sur JBoss Transaction.
D'accord, donc faire de la remballe à ce niveau-là, ouais.
La remballe, ouais.
Ouais.
Putain, je me bats pendant 5 minutes pour expliquer un truc super cool et l'autre il me casse mon truc.
Non, mais bon, voilà, on est possible à marcher, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ouais, donc juste sur les DSL, si tu peux juste me répondre en pas longtemps sur ma question. Comment je peux facilement. Quelles sont les spécificités du langage qui me permettent de facilement faire un DSL?
Alors, je ne sais pas si j'ai toutes les réponses là-dessus. En tout cas, un des objectifs pour nous, et c'était de faire de simplifier l'écriture d'interface utilisateur. Et donc d'avoir dans le langage lui-même une façon de décrire des structures hiérarchiques, mais de manière typée, c'est-à-dire en Celon.
Excuse-moi, c'est un peu comme les builders de Groovy ou un peu
C'est un
comme
peu.
JavaFX avant.
Ouais, c'est un peu comme les builders de Groovy, sauf qu'évidemment, ce n'est pas un langage dynamique, on est un langage statique, d'accord? Donc, et puis, on essaie de rester aussi naturel à Celon, donc tout n'est pas forcément, entre guillemets, aussi naturel potentiellement qu'ailleurs. Mais en tout cas, tu peux définir un type HTML dans lequel tu peux rajouter un type head en dessous. Et puis un type body, etc., etc. D'accord?
D'accord.
C'est difficile à décrire au sein du, enfin, dans un podcast, mais on a créé des appels alternatifs de méthodes, notamment les appels grâce à des noms de enfin l'appel de méthode avec des noms de paramètres qui ont été designés pour rendre un DSL et une structure hiérarchique extrêmement lisibles.
D'accord, bah tu mettras, je pense que un lien là-dessus
Ouais,
dans
je
la note,
mettrai
ouais.
un exemple.
Ce sera pour que les auditeurs puissent voir ça, ouais.
Tu voulais
Alors
rajouter
maintenant,
un truc,
ouais.
Stéphane, sur
Oui,
le
en fait, ce qui
DSL?
rend ça possible, c'est le fait de pouvoir appeler des méthodes en passant les paramètres en leur donnant un nom. Et aussi le fait de pouvoir avoir des paramètres qui ont une valeur par défaut. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de tous les passer. Il peut y avoir des défauts qui sont sensibles, déclarés. Au niveau de la méthode. C'est-à-dire que quand on appelle pour faire un DSL, typiquement on va appeler des méthodes ou des constructeurs et on va passer tous les membres par nom, ce qui fait que l'arbre est tout de suite lisible et visible. On appelle HTML et puis on dit head égale et puis ensuite un objet head et puis body égale un objet body et ça reste très lisible et c'est en fait uniquement des appels de méthodes en passant les paramètres par nom.
Voilà. Donc c'est
Ok,
pas
ouais.
tant que finalement le pattern builder est à moitié natif dans Celon. Donc t'as pas à écrire un DSL pour ça ou comme on écrit en Java par exemple où tu fais des enchaînements de méthodes. Là c'est disons la syntaxe le supporte naturellement.
Ok, cool. Alors maintenant, on va passer peut-être un peu sur ce que j'ai appelé sous le capot. Alors, il y a une particularité que j'avais trouvée moi assez intéressante, c'est qu'en fait, vous appuyez sur JavaC. Donc, de ce que j'ai compris du compilateur Celon, en fait, vous avez donc votre lexeur, votre parseur, donc toute la partie front-end qui prend du code source Celon, qui se fait un AST, qui fait des vérifications dessus. Donc ça, c'est assez classique. Mais par contre, visiblement, vous n'écrivez pas vous-même votre bytecode, mais vous passez par la représentation abstraite de JavaC. C'est ça?
Oui. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que contrairement à beaucoup de langages, je pense, on n'a pas le front-end et le back-end qui sont intégrés. On a vraiment le front-end qui est une librairie à part entière. C'est-à-dire, le front-end, c'est ce qui permet de lexer, de parser et puis de lancer l'analyse de type. Ce qui permet de le réutiliser dans l'IDE de Celon, ce qui permet de le réutiliser pour le back-end JavaScript par exemple. Donc le front-end est totalement autonome. Et en termes de back-end, plutôt que de s'embêter à sortir du bytecode nous-mêmes, c'est-à-dire à passer par toutes les contraintes du format classe, de la déclaration de variables, de l'analyse de la pile, l'utilisation de la pile, tout ça, on se branche sur JavaC et on lui donne un AST Java. Ça permet beaucoup de choses, ça permet de bénéficier de tout ce qui est vérification de JavaC, c'est-à-dire que quand on lui donne un AST, ensuite lui, il va vérifier que l'AST est valide, et donc on peut pas produire n'importe quoi. Ça permet aussi de s'assurer qu'on produit pas du bytecode qui ne marche pas, puisque JavaC produit du bytecode qui marche, et des optimisations que JavaC fait aussi sur le code directement.
Ok, ouais, donc vous passez pas par ASM, qui effectivement ASM, moi je l'ai utilisé pas mal. C'est vrai qu'on peut générer du bytecode qui explose au runtime, qui passe pas des règles de validation ou autre. Donc voilà. C'est vrai que. Et puis en plus, pour les gens qui connaissent pas ASM, c'est un projet qui n'hésite pas à casser ses API entre les release candidates, ce qui peut être parfois un peu énervant, ouais. Donc c'était ma petite pique sur ASM, mais sinon c'est un très beau projet, pas de souci.
Sinon juste, on fait pas du sellent to Java qui après est compilé par Java C. En fait, on lui passe un arbre AST intermédiaire qui est qui est un peu plus flexible et puissant que Java et qui est déjà parsé, lexé, etc. Mm-hmm. Et notamment, j'encourage les gens à aller lire sur sellent-lang.org/blog. Il y a Stéphane qui avait écrit un blog sur un certain nombre de fonctionnalités qu'on utilise qui ne sont pas visibles de Java mais qui sont disponibles dans Java C et qui sont bien pratiques pour nous.
Enfin, notamment comment on implémente le plus, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. En fait, il y a des nœuds de l'AST qui sont implémentés dans JavaC qui ne correspondent à rien dans le source. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses à l'intérieur qu'ils ont été obligés de représenter par des nœuds qui sont pas exprimables en Java, et ça nous permet de faire des choses assez sympathiques en AST qu'on n'aurait pas pu faire en Java source.
D'accord, ouais. Alors après, tout à l'heure, vous aviez mentionné aussi les modules. Donc les modules, c'est un sujet qui est assez intéressant, parce qu'on a Java 8, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, qui va arriver dans pas trop trop longtemps par rapport à ce qu'on a pu avoir par le passé. Et notamment dans Java 8, il y a Jigsaw qui va apparaître, qui est la modularisation du JDK. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un gros rt.jar avec des parseurs XML, du Corba, du Swing, etc., on aura des modules indépendants, ce qui permettrait notamment de faire tourner plus facilement Java sur des systèmes embarqués. Alors vous, comment vous avez implémenté vos modules dans Ceylon et comment vous voyez l'arrivée de Jigsaw finalement ?
Alors les modules, donc déjà il a fallu partir avant que Jigsaw arrive, parce que ça a pris un certain temps.
Parce qu'il n'est pas encore pu en plus. Ouais.
Voilà, donc on s'est appuyé sur le même outil qu'on utilise au sein de JBoss, le serveur d'application. Donc ils ont créé une librairie qui s'appelle JBoss Module, que tu peux vaguement comparer à Jigsaw ou à OSGI, même si c'est quand même plus...
C'est des modules statiques, ouais.
Ouais, c'est défini, ouais. Défini statiquement. Donc on s'est appuyé là-dessus au niveau du runtime, de dire, voilà, l'isolation, finalement, entre les différents modules, elle va être faite par JBoss Module. Cela dit, JBoss Module... une des idées comment Jigsaw évolue, c'était d'avoir un bridge qui allait bien pour aller vers Jigsaw. Donc on pourra supporter d'autres
une interop
avec ça. Donc ça c'est le côté runtime. Au niveau de la définition de module, en fait, la spec définit ce qu'est une compilation. Et une compilation, ça te sort un fichier qui s'appelle un .car, comme Ceylon Archive, dans lequel il y a la définition du module, ses dépendances, la liste des packages qui ont été publiés, et évidemment les classes elles-mêmes.
Les classes compilées,
Compilées.
D'accord.
Et ça, c'est donc sorti par le compilateur, mis dans ton repo local ou dans ton repo à distance. Donc ça viendra probablement plutôt sur M3. Mais on a cette idée de... Alors non pas à la Maven, mais plutôt ce qu'on essaie de reproduire, c'est plutôt un truc à la RubyGems, ou à la CPAN, où il y a un repo central qui est facile d'utilisation.
Sur lequel tout le monde peut pousser facilement des modules, quoi.
Voilà, sur lequel tout le monde peut pousser des choses, sur lequel il y a un standard qui est défini, qui est accepté, et voilà, et tout le monde va là-dessus. Parce que la fragmentation Maven, où chacun a son repo, etc., on n'est pas contre, mais on voit pas, enfin, c'est clairement pas un bénéfice pour la communauté.
Ok, ouais.
Moi, je voulais rajouter qu'effectivement, pour les modules, je pense que ce que fait Jigsaw, c'est-à-dire rajouter le support des modules directement dans le langage et directement dans les outils, c'est exactement ce qu'on fait. Et je pense que c'est l'approche qui est la plus saine, c'est-à-dire que en Java, tout le monde trouve normal que la gestion des packages soit dans le langage. Je pense que les modules ont aussi leur place dans le langage. Les outils de base nativement, c'est-à-dire Java, et en l'occurrence le compilateur Celon, supportent les modules, supportent les repositories, les gestions de dépendances, c'est quelque chose qui vient avec le langage.
Ok, ouais. Et dernière question finalement, toute la partie sous le capot de Celon. Finalement, donc, en ce moment, c'est la grande mode du JavaScript. Tout le monde se fait des modules sur GitHub avec un petit truc en JavaScript où on réinvente un peu pas mal de choses qui ont été faites ailleurs, mais on fait en JavaScript. Est-ce que vous supportez, vous, d'autres backends que du bytecode Java? On écrit, par exemple, du JavaScript.
Oui, on a un backend JavaScript qui est assez avancé, puisqu'il me semble que, en termes de features, il est à peu près équivalent au backend Java. Je pense que la première release devrait pas tarder d'ailleurs, donc on supporte tout à fait JavaScript. On pense que c'est assez intéressant, qu'on va pouvoir faire des choses assez rigolotes avec, et on commence déjà à parler d'un backend sur .NET.
D'accord.
Et ça nous a permis d'être plus mature sur la modularisation, en fait. On a réalisé, parce que là, faut pas absolument pas mettre, mettons, telle fonctionnalité dans celon.language, parce que c'est spécifique à la VM et ça va être impossible d'implémenter ça en JavaScript. Donc on a repensé la façon dont on allait séparer un petit peu les modules. Et je pense que c'est, pour le futur, c'est une très bonne chose pour nous d'avoir, dès le départ, ces deux backends qui nous permettent d'abstraire proprement les modules et les fonctionnalités du langage, etc. etc.
Et c'est là que le SDK indépendant du JDK prend tout son sens, parce que le JDK n'est pas disponible sur JavaScript.
Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Et donc finalement, vous allez vous retrouver peut-être en concurrence avec Dart de Google ou des choses comme ça, c'est ça?
Pas vraiment en concurrence, parce qu'on n'a pas du tout une approche similaire. Dart, ça reste un langage dynamique, et c'est pas ce qu'on fait.
Enfin, Dart dit qu'ils sont optionnellement typés.
C'est-à-dire, oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, pour des raisons d'optimisation, on peut se permettre, si on a envie, de rajouter des annotations de type qui sont des indications, en fait, qui permet au compilateur de générer du code plus efficace. Mais c'est pas vraiment, ça en fait pas un langage fortement typé avec un système de type complexe.
D'accord.
On a une règle, une pseudo-règle dans l'équipe, c'est que si c'est optionnel, les gens l'activent pas, quoi.
Okay.
Donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a mis. Bon, c'est pour ça que le typage, il est pas du tout optionnel dans Celon. C'est pour ça que, par exemple, un nom de méthode, il doit démarrer par un minuscule et que c'est pas une recommandation. Enfin, il y a pas mal de choses où on se dit, bon, on va vous simplifier la vie. Vous aurez pas le choix. Alors, on essaie de pas faire ça dans les choses où il y a clairement un besoin de flexibilité, mais c'est vrai que quand c'est des débats de chapelle, hop, on coupe à la racine le problème et puis on avance.
On n'est pas en concurrence avec Dart de la même manière qu'il n'y a pas de langage statique qui soit en concurrence avec des langages dynamiques. On a toujours besoin, je pense, des deux, et c'est très bien que les deux cohabitent.
Ok, ouais. Alors justement, là, donc on parlait pas mal du compilateur, des backends. Finalement, ça nous emmène vers le tooling. Donc voilà, aujourd'hui, imaginons, je vous écoute, je me dis, tiens, j'ai envie d'essayer Celon. Alors j'ai vu qu'il y a un IDE basé sur Eclipse qui est fait par un Frenchie, je crois, c'est ça?
Ouais, par David Festal de Serly.
Encore eux.
Encore eux.
Ouais. Encore eux.
Ok, donc on a un IDE Eclipse. Est-ce que vous avez rapidement deux mots, peut-être sur un support NetBeans IntelliJ, ça va arriver, ça sera. Vous savez pas?
pas vraiment. En fait, on a, pour être très honnête, on attendait que Kotlin sorte son plugin IntelliJ pour voir s'il y avait des choses à faire, parce que finalement, même si on a démarré avant eux, il y a quand même pas mal de similarités entre les langages, donc on estime que le travail de portage n'est pas forcément dantesque pour quelqu'un d'un petit peu motivé, surtout que, comme disait Stéphane là, au début de l'épisode, on a le type checker, donc, qui est le front-end de notre compilateur, entre guillemets, il est complètement séparé du reste. Et une partie même de l'IDE en fait est séparée du fait qu'on travaille avec Eclipse, donc réutiliser ces choses là doit pas être forcément sorcier.
Ok, ouais.
Mais ça sera vraisemblablement orienté, enfin, si quelqu'un dans la communauté est intéressé, bam, hop, c'est parti.
D'accord, donc ça c'est ouvert.
Ça doit pas être très compliqué, parce que comme dit Emmanuel, le front-end c'est une librairie, donc ça c'est quelque chose qui est pas dans plugin, qui est pas à faire dans plugin, et le back-end ouais. aussi, le compilo, c'est une librairie. Donc la seule chose qui reste à faire, c'est la glue entre ça et l'IDE, et même en termes de logique de ce que peut apporter un IDE, c'est-à-dire les suggestions, comment on répare les erreurs, c'est quelque chose qu'on peut abstraire de l'IDE qui existe en Eclipse. Et donc le travail doit pas être dantesque pour supporter IntelliJ.
Ok, ouais. Toujours en tooling, 30 secondes max par réponse. Quid des tests?
C'est-à-dire,
est-ce que vous avez un framework de test utilisable dans le langage, ou c'est quelque chose qui est à part?
Alors ça va être quelque chose qui va être disponible dans le SDK, ça, sans doute. D'ailleurs, on en a déjà plusieurs qui existent en interne, codés en Celon, et je pense qu'au bout d'un moment, on va réussir à trouver la bonne approche et commencer à publier ça.
Ok, le débugger.
Le débugger marche sous Eclipse. Ouais.
Et il t'affiche les lignes Celon, pas les lignes Java virtuelles.
Ouais, ok, ouais. Ouais. Ok, d'accord. Super. Est-ce que vous pensez faire un outil de build aussi, ou vous appuyez sur Maven, Ant, ou je sais pas quoi?
Alors pour le moment, on s'appuie sur Ant, on a des plugins Ant, on a aussi en préparation des plugins Maven qui permettent de compiler du Celon, mais une fois qu'on aura sorti le langage, je pense qu'on pourra commencer à travailler sur un outil de build spécifique à Celon.
Okay.
Notamment réutiliser le DSL, enfin pas le DSL, mais les builders pour quelque chose.
D'accord.
Voir.
Donc un peu comme Gradle fait en Groovy, finalement le faire en Celon.
Voilà.
Ok. Alors maintenant, on va élargir un petit peu pour la fin de cette interview sur la partie écosystème à venir du langage. Alors finalement, quand on regarde ce qui s'est passé pour pas mal de langages, je vais prendre juste l'exemple de Ruby qui a longtemps été confiné au Japon et puis à quelques spécialistes un peu partout à travers le monde. Finalement, ce qui l'a fait décoller, c'était Rails. On pourrait faire à peu près le même raisonnement pour pas mal de langages. Est-ce que, donc, on avait dit quelques bribes, finalement, la Torchbox et compagnie, mais est-ce que vous voyez des frameworks sur lesquels vous aimeriez travailler pour faire décoller le langage? Enfin, je sais pas, un framework web qui s'appellerait Greylance, par exemple, ou autre.
Alors, ce qui est rigolo dans l'équipe, c'est que moi, je suis vraiment un passionné de REST et tout ce qui est web framework aussi. Ça fait, j'ai pas mal passé d'années à travailler sur des applications web. Et Gavin, qui est l'auteur de Sim, a aussi une grosse passion sur le sujet. Donc, on a déjà deux mecs dans l'équipe qui passent déjà pas mal de discussions à commencer à parler de qu'est-ce que serait un framework web sur Celon. Donc, je pense que c'est quelque chose qui sera parmi les premiers projets à émerger.
D'accord.
Et de toute façon, autant aujourd'hui, voilà, on a l'interop Java, donc on peut commencer à jouer plus sérieusement qu'avec la M1, mais voilà, tant qu'il n'y aura pas justement ce genre d'outils pour être assez proche de « allez hop, je fais une appli et je vois comment ça marche », voilà, pour nous, c'est long, ce ne sera pas fini, quoi. Donc, l'objectif pour nous, ce n'est pas de nous amuser à écrire un langage ou avoir un super SDK, c'est d'avoir des gens productifs par-dessus, et du coup, il n'y a pas moyen qu'on n'écrive pas un framework web qui soit adapté à Celon pour l'utiliser.
D'accord. Et finalement, donc, je vais revenir à une des questions du début, qui est la question qui revient systématiquement, c'est pourquoi faire un langage donc on a compris que Red Hat a investi là-dedans, un peu comme pour Kotlin, finalement, JetBrains explique que ça les intéresse de faire un langage, mais qu'aussi ça leur permet aussi de vendre derrière des IDE. quel est le retour sur investissement côté Red Hat en mettant des gens sur Celon?
Ben, c'est con. Alors, un langage, je sais plus qui disait, mais bon, il y en a 99% qui décolle pas vraiment, quoi. Ça passe à 5 utilisateurs, puis après ça redescend. Donc, c'est vrai que c'est un gros risque. Cela dit, un langage, c'est aussi potentiellement un gros levier pour définir ce que serait l'IT tu vois, des prochaines années.
Pour s'en servir
Ensuite,
aussi.
pour s'en servir aussi,
Ben
oui.
oui, parce que ça va permettre aux équipes qui auraient codé en Java de pouvoir avoir Celon comme alternative et d'être plus productif, puisque c'est quand même une des raisons pour laquelle on veut ça.
Ouais. Et, en fait, un des trucs, c'est que quand on a vu. Donc, on s'est beaucoup battu dans le JCP, non pas en dehors, mais dans le JCP. Enfin, battu pour essayer de faire avancer les choses, hein, pas juste pour.
Pour se battre.
Voilà. Et on n'était pas très content de la vitesse d'évolution alors de Java I, mais vous imaginez même Java, quoi. Et il y a eu cet énorme trou. Béant de Java 6, Java 7,
Avec le rachat, tout ça, ouais.
voilà, qui a fait peur à un certain nombre de gens, et notamment des gens pour qui une partie de leur business dépend de Java, quoi, du langage. Et donc, c'est pas franchement déconnant pour une boîte qui a énormément de runtime, qui a enfin, des visions assez haut niveau de cloud, de machin, de trucs, de se dire. Si je pouvais lâcher quelques personnes pour qu'ils réfléchissent au langage du futur et de voir si ça marche, ça serait peut-être pas mal. Et même si ça marche pas, est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui seraient réutilisées pour le vrai langage N plus 1, tu vois, de pouvoir influencer le futur plus que d'attendre que ça arrive.
Ok,
Donc je
donc
me
pour
suis.
vous, c'est un investissement sur l'avenir, mais sans avoir forcément de ROI bien défini, quoi.
Alors, bah, je sais, ça dépend à quel niveau de Red Hat tu parles, mais si c'est l'équipe Celon Red Hat, c'est l'investissement du présent, quoi, parce qu'on a envie d'écrire des applications le plus tôt possible. Donc on fouette Stéphane, on fouette Gavin pour avancer. Je sais pas franchement en combien de temps on aura quelque chose, tu vois, qui sera d'un niveau suffisant pour se dire, tiens, je démarre une appli, paf, je la fais, et hop, j'ai fini. J'espère le plus tôt possible, mais ça avance assez vite finalement. Ça avance assez
Ouais,
vite.
et justement, donc par rapport au développement de Celon et à la roadmap plus globale, vous en êtes où? Et alors donc tu viens de dire que tu sais pas exactement quand ce sera utilisable pour commencer à faire entre guillemets, de vraies applications, mais est-ce que vous avez quand même une idée, un objectif de départ là-dessus?
Alors, il y a une roadmap qui est sur le site web, qui est plutôt définit le langage et le SDK. Donc, vous allez sur celonlang.org slash, je sais plus, documentation slash roadmap. Non, slash current slash roadmap. Et là-dessus, on définit. Alors, ça bouge, hein, puisqu'on évolue les choses, mais on a défini 5 milestones. Qui partent de. Voilà, on aimerait faire une version 1.0 de Celon. Là, on en est à la 2. Et vous allez voir, notamment la 3, on espère la sortir bien plus vite que la Milestone 2. Donc, vous allez pouvoir voir les choses. Mais ça reste très centré, voilà, sur le langage et un petit peu sur le SDK. On n'a pas encore de roadmap sur ce qu'il y a plus loin, parce que ça sera un petit peu des plans sur la comète, ça sert à rien. Cela dit, quelqu'un disait dans Twitter, tiens, est-ce que Celon je peux utiliser pour plus que faire joujou? Je pense que maintenant qu'on a la Milestone 2 prête, tu peux commencer à utiliser Celon pour écrire des modules qui feront partie du SDK. Donc là, ça commence déjà à
D'accord,
arrêter de
donc.
faire joujou, quoi.
D'accord, donc si j'ai envie de contribuer au SDK, je peux commencer à contribuer là-dessus, quoi, finalement, c'est ça.
Oui, le
Ouais.
SDK commence vraiment maintenant, puisqu'on a toute l'interop avec Java, et que donc on peut déjà faire beaucoup de choses en Celon, que ce soit enfin, du
De
code,
la
des modules.
ouais. Ou faire de la remballe, quoi.
Voilà.
Faire de la rambale. Mais même la rambale est intéressante, puisque
Bien
donc
sûr,
c'est
ouais.
un nouveau langage, et c'est un langage sur lequel les approches de codage, les approches des API. Voilà, on a des idées, il y a des raisons pour lesquelles on a designé les choses, mais c'est encore, et on commence à maturer là-dessus, mais voilà, il y a encore des évolutions à faire. Donc s'il y a des choses qu'il faut corriger dans le langage pour avoir une API plus propre, c'est exactement maintenant, quoi.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est l'intérêt, justement, de ce que j'appelle faire de la remballe pour rigoler, quoi. Mais de partir sur un existant qui est solide en termes d'implém, et puis de voir comment on fait des API de qualité par-dessus, quoi.
Ouais.
Ok. Et donc, finalement, voilà, quelqu'un qui se dit, tiens, qui écoute le podcast, qui se dit, c'est super, j'ai envie de contribuer à Celon, il fait quoi? Il va sur GitHub, c'est ça?
Alors, il va
sur. Commencer par la mailing list, ouais. Je pense.
Enfin, déjà, il va sur celon-lang.org.
Ouais.
Et là-dessus, ce superbe site web explique.
Avec tout. Un éléphant.
Il y a notamment avec un éléphant. Il y a notamment un. Bon, déjà, il y a un tab qui s'appelle Learn qui vous permet de comprendre un petit peu plus dans le détail ce que fait Celon. Il y a un truc download, donc vous pouvez downloader. Et puis un truc qui s'appelle communauté. Vous allez voir pouvoir rentrer dans la mailing list, que ça soit les utilisateurs ou de développement. Pour discuter avec nous, c'est relativement actif, donc venez. Et puis évidemment, il y a un tab qui s'appelle code et qui vous, en gros, vous ramène vers GitHub sur lequel vous, bah, vous forquez les différents projets et puis vous pouvez commencer.
Il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles on peut contribuer. Il n'y a pas que le front-end, il n'y a pas que le back-end Java, il y a le back-end JavaScript, il y a les outils, il y a l'IDE en ligne, il y a le SDK, il y a le gestionnaire de modules. Il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles on peut participer. On n'est pas obligé d'être un expert en compilation pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice.
Ouais, tout à fait, ouais. Alors, je vais juste dire un mot là-dessus sans vouloir vous verser des louanges, c'est pas du tout le but. Mais c'est vrai qu'au début, avec la My Lesson One, j'avais été voir un peu comment vous faisiez justement vos implémentations de Celon, le compilateur, le runtime. Je voulais regarder un petit peu comment c'était structuré. Et moi, le truc qui m'avait surpris, c'est la discussion que tu avais citée un peu plus haut sur le shared. J'étais tombé là-dessus. Donc, Gavin King, qui est à l'origine de ce mot-clé finalement, parce que c'est lui quand même qui a fait le design initial. Discuter avec d'autres, mais vraiment de manière super informelle, sur le fait que, ouais, finalement, share, c'est peut-être pas une super idée, il faudrait qu'on voit. Et c'est vrai que c'est une communauté qui paraît, en tout cas, assez ouverte de l'extérieur. Voilà ce que je peux, à titre personnel, en dire, finalement.
Oui, on n'est pas du tout campé sur nos positions. Il y a beaucoup de choses qu'on revoit à la demande de la communauté. Et il y a peu de choses qui sont certaines sans qu'on ait de vraiment très bonnes raisons. Donc il y a des choses sur lesquelles on est tout à fait ouvert à la discussion et l'aspect qu'en fait partie, bien sûr.
Ok, ouais. Juste un petit mot, donc Java 8, je vais revenir sur lui, il arrive. Donc il va avoir notamment enfin le support des lambda, donc pouvoir passer des fonctions, paramètres, etc. Est-ce que vous pensez que ça va pas diminuer un tout petit peu l'intérêt des langages statiquement typés alternatifs sur la JVM, le fait que Java 8 finalement apporte un certain nombre de réponses à des points qui sont en suspens depuis un petit moment?
Je pense pas que ça va faire de ça un langage particulièrement fonctionnel. Ça va être très bien pour ceux qui font du Java, mais c'est pas ça qui va faire transformer Java en un nouveau langage.
D'accord, donc vous espérez donc contribuer quand même des choses nouvelles via Celon.
Je pense qu'on a plus que des lambdas à proposer dans Celon, effectivement.
Ok, ouais.
Et puis il y a un SDK 9, c'est extrêmement ambitieux et ça rajoute à notre risque, mais c'est aussi un potentiel à changer le monde, entre guillemets, qui est bien, bien, bien supérieur.
Et un système de type qui est différent aussi, hein.
Ouais, non, ouais, mais on parlait des unions, préparer, des choses comme ça. En fait, je suis impressionné par les unions et les intersections, le nombre de choses qu'on arrive à résoudre avec, qui nous ont permis de supprimer des fonctionnalités qu'on avait avant ou de les rendre plus génériques. Par exemple, la notion de nul, le rétrofitter dans cette notion de c'est le type string ou nothing. Voilà, c'est des choses. Qui n'ont pas été pensés dès le début comme ça, hein, mais qui, en rajoutant cette fonctionnalité, on a réalisé, attends, hop, on va enlever pas mal de choses. Du coup, le langage, il est beaucoup plus simple à comprendre, puisque c'est toujours la même logique qui est réappliquée.
Ouais, bah je pense qu'on aura bien compris ça, en fait. C'est, vous n'avez pas d'existant, vous faites le pari de faire un nouveau langage avec un certain contour, et voilà, vous faites le pari de faire ça, et en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut encourager, je pense.
Merci.
Ouais. Ça, c'est pour le chèque. Et sinon, donc ouais, il y avait parmi les questions de la communauté, je crois qu'il y avait vraiment une question qui se démarquait du lot, qui était la question que tout le monde se pose, qui est une question de @riduidel, qui était: combien de blagues Guillaume Laforge peut-il faire avec Ceylon, d'après vous?
Alors, on saura jamais, mais ma théorie, c'est que Guillaume n'a pas de limite.
Guillaume n'a pas de Stack Overflow Exception.
C'est magnifique. Ça. Non, mais okay. C'est vrai que Ceylon... Ouais. En plus, ce qui est bien dans Ceylon, c'est que la façon de le prononcer en anglais propre, c'est presque la façon dont on le prononce en français, là. Ceylon. Ceylon.
Ils disent un truc. Et non pas Ceylon, comme... ouais.
Non pas Ceylon, qui veut dire...
Je navigue. Je navigue. Allons-y. Taillot, taillot.
Exactement.
Super. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut, on peut vous remercier pour cette interview. En tout cas, vous qui écoutez ce podcast, n'hésitez pas à réagir sur la mailing list des Cascodeurs avant que ce soit Emmanuel Lécharny qui s'en occupe.
C'est ça.
Et puis voilà, en tout cas,
celui qui poste avant Emmanuel Lécharny a droit à un compilateur gratuit.
Ouais, super. Et un t-shirt Red Hat, magnifique.
On n'est pas vendredi, c'est bon.
C'est bon. Attends le temps que je le
ah oui,
je mixe, ça, tu sais pas.
Voilà, bon bah écoutez, merci à tous. Et puis au prochain épisode.
Ça marche. Ciao et merci à Julien d'avoir pris mon siège.
De rien, merci, puis merci pour le chèque. Merci pour, du fond du cœur.
Au revoir.
Allez.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.